du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Salice du Salat, 94.1.
Il est midi, merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous de la mi-journée. Que vous soyez à la maison, sur la route, nous sommes heureux de partager ce moment. Et ce moment, on va aussi le partager avec vous. David Torchala, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire de Lourdes. Évidemment, avec vous, on va parler de la venue du pape Léon XIV à Lourdes. Une venue qui se prépare activement.
Oui, très activement. Vous savez, nous recevons ce soir la délégation du Vatican pour régler les derniers détails.
Eh bien, tous ces détails, vous allez nous les détailler dans quelques instants, et puis on restera à Lourdes dans cette émission, puisque depuis plus de 20 ans, Jean-François Guiraud vient à Lourdes. Il est devenu directeur de pèlerinage un peu par hasard. C'est le témoignage qu'il va nous livrer dans l'émission de Mathias Terrier, de passage à Lourdes. Et puis on s'intéressera au festival de musique de chambre en Vallée des Gaves. Ce festival va se dérouler du 23 juillet au 15 août. Un festival de musique au cœur des Pyrénées qui va mêler à la fois des jeunes artistes et le patrimoine local, un patrimoine d'exception, avec notamment des lieux comme l'abbatiale de Saint-Savin ou bien encore l'église des Templiers de Luz. Pour nous en parler, on recevra l'organisatrice de cet événement qui a à peine 22 ans, qui s'appelle Inès Sirajeddine. Elle sera interrogée par Philippe Subercase. Voilà pour les grandes lignes de cette émission, et pendant cette heure, on va prendre également le temps d'écouter l'actualité régionale avec maintenant les titres qui nous sont présentés par Clément Seroux.
Bonjour à tous. Les ossements retrouvés à Mayogues dans le Tarn ont été formellement identifiés. Ils sont bien ceux de Delphine Jubilard, l'infirmière disparue en décembre 2020. Dans cette affaire, un arrêté municipal interdit désormais l'accès au terrain où les restes ont été découverts afin de préserver les investigations. Un Airbus et un Boeing ont évité une collision de justesse au-dessus de l'Atlantique le 10 juillet. Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances de cet incident. En Occitanie, l'ADEME renforce son accompagnement auprès des collectivités pour accélérer les projets de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique. Dans les Hautes-Pyrénées, plusieurs foyers de fièvre catarrhale ovine ont été confirmés. Les éleveurs vaccinent leurs troupeaux pour limiter la propagation de la maladie. Enfin, les 8 forteresses royales du Languedoc espèrent rejoindre cette semaine la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà pour les titres de l'actualité.
Merci Clémence Roux. On vous retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ces titres dans le journal. À tout à l'heure.
Radio Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
La venue du pape Léon XIV en France se préparait notamment à Lourdes. Bonjour David Torchala.
Bonjour Gilles.
Vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire. Je le disais, cette visite se prépare, et une visite qui se déroule au cœur de la saison des pèlerinages. C'est vraiment un défi pour le sanctuaire.
Oui, c'est vrai que c'est un défi parce que non, le sanctuaire ne va pas fermer pour préparer, pour bâtir un grand podium pour la messe. Non, il ne va pas fermer ses portes. Au contraire, c'est toute la difficulté de la préparation de cette visite du pape, c'est de évidemment maintenir ouvertes les grandes portes du sanctuaire, c'est de permettre à tous les pèlerins qui sont là de pouvoir vivre sereinement leur pèlerinage comme d'habitude, on a envie de dire. Et puis c'est pas seulement faire une prouesse technique, mais c'est de pouvoir garantir l'accueil avant, pendant et juste après, parce que le pape, on le sait, vient à Lourdes le dimanche 27 septembre, mais le lundi 28, eh bien on reprend dès 8h le lendemain une vie ordinaire. Et ça, évidemment, c'est pas une mince affaire. Ça me donne l'occasion de dire que aucun pèlerinage n'a été annulé pour la venue du pape. Tous ceux qui avaient prévu de venir, notamment le pèlerinage national italien mené par l'organisation Unitalsi, sera bien présente aussi. Donc, il y a un grand pèlerinage aussi de Barcelone avec beaucoup de malades. Ils seront là. Tous ceux qui avaient déjà réservé pour l'occasion. Alors évidemment, la journée du dimanche sera un petit peu différente. Ouais. Hein, si vous avez prévu de faire un chemin de croix, non. Si c'est l'heure de la messe du pape, on va tous vivre la journée ensemble. Donc quelques modifications, mais voilà, vraiment aucune annulation. Voilà, ce défi de continuer, d'organiser, mais de maintenir la vie du sanctuaire, puisqu'on est en haute saison et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de monde en ce moment.
Dans un instant, on parlera des moyens techniques qui sont mis en place, puisque vous êtes au cœur de l'organisation, mais il y a une information importante que vous pouvez donner aux auditeurs de Radio Présence. Il y a une délégation du Vatican qui arrive.
Oui, qui arrive tout à l'heure à l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Vous savez, on les appelle les précurseurs. Voilà, c'est ceux qui anticipent ce groupe, cette équipe peu d'experts qui vient régler les derniers détails. Et ils sont là sous l'autorité de Monseigneur José Salas Castañeda, qui est le coordinateur des voyages pontificaux. Et donc, ils arrivent ce soir à Lourdes pour travailler aussi toute la journée de demain. L'idée étant de reprendre le programme minute par minute. Et ainsi, après, ils s'envoleront vers Paris et vers Metz pour avoir une vision complète de ce voyage en France.
Voilà pour cette indiscrétion que vous livrez aux auditeurs de Radio Présence. On le disait, évidemment, hein, tout ça va nécessiter des moyens techniques exceptionnels. Comment ça va se passer pour les gens qui vont venir? J'imagine qu'il y aura du son, de l'image, tout ça est en cours de préparation.
Oui, évidemment, il y a des grands moyens qui seront évidemment mis en place, qui engendrent aussi pas mal de frais d'organisation. C'est pas seulement d'accueillir la télévision. Vous savez, c'est France Télévisions qui a été retenu pour être télédiffuseur hôte, hein, donc c'est la télévision qui va capter l'ensemble des images et qui la mettra gracieusement à disposition à l'ensemble des médias, que ce soit des télévisions, des radios, des chaînes internet, etc. Et notamment aussi pour Radio Présence. Mais ce qui incombe au sanctuaire, c'est l'accueil du public. Donc on attend, ça c'est difficile de l'évaluer, mais environ 150 000 personnes seront présentes sur la messe sur la prairie hein, du sanctuaire. C'est dire qu'il faut préparer des kilomètres de barrières et 13 kilomètres au total de barrières seront déployés de manière à pouvoir créer des zones pour que chacun puisse voir dans le confort et dans la sécurité pour puisse vivre hein, notamment les célébrations. C'est également le besoin de mettre des immenses écrans géants pour que chacun puisse voir malgré la distance. Et puis il faut entendre, donc il y a aussi beaucoup de sons, un grand réseau sera déployé pour que chacun puisse entendre. Alors évidemment, ça, ce sont des moyens qui sont techniques, mais ils sont surtout humains, parce que s'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de technique. Donc on attend 600, 700, 800, 900, peut-être 1000 bénévoles seront nécessaires pour venir nous aider pour cette journée. Donc voilà, il faut pouvoir les accueillir, leur confier leur mission, les héberger, etc. Et puis aussi, il y a des moyens qui sont peut-être plus terre-à-terre, mais absolument essentiels, c'est les sanitaires. Alors là, voilà, c'est le sujet en ce moment. On travaille beaucoup sur les sanitaires, c'est-à-dire que si on regarde le rapport par rapport au mètre carré, il faudrait au moins mettre 1000 sanitaires, vous savez, exceptionnels. Là, les sanitaires un peu dits chimiques, etc. Donc ça veut dire il faut les entretenir, etc. 1000, ça fait beaucoup. On a vraiment l'impression. Mais donc il faut qu'on soit assez stratégique. Et puis aussi, derrière, c'est aussi la question de la propreté, de la gestion des déchets, etc. Puisqu'on veut vraiment aussi que cette organisation puisse s'inscrire dans une démarche responsable de chacun. Donc tout ça, ce sont des organisations. Et puis évidemment, ça va être l'occasion de faire aussi quelques investissements. Les lieux où passera le pape, on aura quelques travaux de peinture et de ravalement de façade. Vous savez, il y en a tellement de besoins dans le sanctuaire. Et puis par exemple, pour installer le plateau de France Télévisions qui sera au bout de la prairie, il va nous falloir faire 500 mètres de... passer en tout cas 500 mètres de câble, donc il va enfin, des tranchées, etc. Eh bien ça, ça nous servira pour plus tard. Voilà, donc c'est aussi l'occasion parfois d'avoir la visite du pape. Bah, c'est le petit aiguillon qui nous dit non, ça, ce sont des travaux qu'on avait remis à plus tard et qu'il faut faire maintenant. Et donc tout ça doit s'organiser dans une France qui est en vacances. Donc il faut arriver à trouver les entreprises qui sont disponibles. Et donc c'est beaucoup d'organisation. Et puis aussi c'est déjà prévoir le podium. Un grand podium sera installé. Il est prévu qu'il puisse accueillir 400 places entre les évêques, les prêtres, les cardinaux français. Les prêtres, ils seront pas tous sur le podium parce qu'il y a plus de 1500 qui sont attendus pour la messe. Mais voilà, donc c'est des plans d'implantation, des études de sol, etc. Donc aujourd'hui, la préparation, elle est assez invisible. Elle sera palpable tout début septembre.
Voilà, on l'entend, hein, tous ces moyens, eh bien, ils ont un coût. Est-ce qu'on a déjà une estimation de cette visite
Il faut la faire, cette estimation, parce que c'est aussi ça, la responsabilité du sanctuaire, c'est aussi de pouvoir trouver les moyens d'engager ces frais. On est déjà à plus de 2 millions d'euros à charge, hein, pour le sanctuaire, donc dans tout ce déploiement que je vous ai un peu énuméré, mais ça comprend aussi des frais d'accueil de journalistes. Plus de 1000 journalistes sont attendus sur l'événement. Ça veut dire pour nous de transformer une salle polyvalente que nous avons près de la forêt, là au fond de la prairie, en un centre de presse. C'est prévoir des estrades, des poules presse, ça s'appelle, des estrades pour que chaque journaliste puisse faire des images, etc. C'est de la restauration, c'est aussi donc ça pour les journalistes, mais c'est également de la décoration. J'ai parlé évidemment de ce grand podium qui a de fait un coût, hein, et puis il y a pas mal de frais de liturgie. En fait, tout amène des frais et à la hauteur aussi de l'événement. Donc évidemment, le sanctuaire appelle déjà aux dons pour ceux qui souhaitent venir, en tout cas au sanctuaire. Vous serez invités à participer quand vous le pourrez, et puis pour ceux qui seront à distance et qui recevront le signal par la télévision, voilà, sachez que pour le sanctuaire ça entraîne des frais. On a calculé à peu près, hein, là on est encore en train de faire des devis, et donc mais on serait à peu près pour chaque pèlerin présent, ça devrait être un coût de 15 euros par personne, hein, donc 150 000 fois 15, vous voyez, on y est vite. Et donc voilà, c'est pour cette raison qu'on appelle évidemment aux dons. C'est déjà pour financer des structures qui sont exceptionnelles, parce que c'est à la hauteur de l'exception de l'événement. Et évidemment, ça nous sort du quotidien. C'est aussi pouvoir garantir la sécurité, l'accueil de tous, et particulièrement des personnes malades elles sont toujours à la première place au sanctuaire, mais elles seront vraiment au cœur de la visite, et ça tient particulièrement à notre évêque Monseigneur Jean-Marc Mika et au recteur le Père Michel Dauban, qui ne soit pas seulement sur le premier rang des célébrations, mais qui puisse aussi avoir des rencontres avec le Saint-Père. Et puis c'est laisser au sanctuaire des investissements utiles pour l'avenir. Donc évidemment, on a besoin de dons pour cette journée historique, mais j'aurai l'occasion de vous le rappeler, je pense, au cours de l'été.
Et voilà, on l'entend, hein, cette visite qui se prépare donc au cœur de la saison des pèlerinages. On peut rassurer aussi les auditeurs qui souhaiteraient venir à Lourdes, tout est fait pour accueillir les pèlerins ce jour-là dans d'excellentes conditions, vraiment.
Vous avez raison de le dire.
Pas que les gens aient peur de venir.
Il faut le redire, n'ayez pas peur. Oh, c'était pas ce pape-là, vous en étiez un autre qui disait ça. La messe, la grande messe est prévue l'après-midi à 15h. Je vous redis les grands temps. Ouais. Le pape arrivera déjà le samedi soir, hein, juste pour entrer dans la ville et accueillir la foule. Mais c'est vraiment une grande journée du dimanche, avec d'abord l'accueil du pape à la grotte, et puis cette grande messe l'après-midi sur la prairie qui démarra à 14h30. Ça laisse le temps d'arriver, et puis aussi une belle et magnifique procession mariale à 20h30 le soir. Donc le programme est ainsi étalé, et donc ça permet aussi plus facilement de pouvoir se déplacer. Alors oui, peut-être que ça va, ça sera différent quand on vit habituellement à Lourdes. Peut-être qu'il faudra se garer à Tarbes, à 20 minutes de là, et prendre une navette gratuite qui nous amènera à Lourdes. Mais toutes ces informations, évidemment, on y travaille, on va les compléter compilé sur le site internet pour que on puisse être parfaitement fluide sur l'information. Mais en tout cas, ça sera évidemment possible de venir. Alors oui, peut-être pas avec sa voiture en se garant tout proche du sanctuaire. Ça, je crois pas. Mais en utilisant toutes les navettes qui seront mises gratuitement à disposition, ça sera évidemment possible. Et c'est vraiment la meilleure des solutions pour venir.
Et de tout ça, on en reparlera évidemment dans cette émission dans les prochaines semaines. Voilà pour quelques pas, en quelque sorte, les coulisses de cette préparation de la venue du pape Léon XIV à Lourdes. On l'entend, elle se prépare dans les moindres détails. Merci David Torchala. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication et des ressources pour le sanctuaire. Merci et puis à très bientôt sur Radio Présence.
Merci à tous, à bientôt.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Et restez avec nous dans un instant, on va parler du festival de musique de chambre en Vallée des Gaves, c'est dans le département des Hautes-Pyrénées. Ce festival va se dérouler du 23 juillet au 15 août, un festival de musique au cœur des Pyrénées qui va mêler des jeunes artistes, tout ça dans des lieux d'exception avec notamment l'abbatiale de Saint-Savin ou bien encore l'église des Templiers de Luz. On en parle avec Philippe Subercaz et son invité.
Les podcasts de Radio Présence. Podcast de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence. Présence dans la vallée du Lot. 92.5.
La première édition du Festival de musique de chambre en Vallée des Gaves va se dérouler cet été dans notre belle région. Elle débutera d'ici quelques jours. On en parle bien sûr avec notre invité. Bonjour Inès.
Bonjour.
Inès Sirajeddine, j'espère que je prononce bien votre nom.
Tout à fait.
Vous êtes toute jeune, vous avez 22 ans et vous organisez ce festival de musique de chambre en Vallée des Gaves. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de la genèse de ce projet ?
Alors la genèse de ce projet, tout est parti du fait que moi je suis originaire des Vallées des Gaves. Donc ma famille maternelle est originaire du Val d'Azun et du Pays Teuil. Donc déjà un attachement personnel pour ce territoire. Et ensuite, moi qui suis devenue du coup musicienne professionnelle, je suis actuellement en études en Allemagne, dans une école supérieure de musique classique, donc en hautbois et chant lyrique. Et donc je suis passionnée par la musique de chambre, donc qui est la musique en petits groupes d'instrumentistes. Et j'adore le territoire des Vallées des Gaves. Donc l'année dernière, j'ai organisé une tournée avec mon groupe de musique de chambre, qui est un quintet à vent, donc flûte, hautbois, cor, clarinette et hautbois. Et en fait, ils sont tombés amoureux de la vallée, quoi. Et donc, je leur ai proposé ce projet un peu fou, de les embarquer avec moi pour 4 semaines de festival, du coup, 13 concerts avec 4 formations différentes. Et donc, ils ont été partants. Donc, suite à ça, j'ai commencé l'organisation du festival, tout penser un peu artistiquement le projet. Et aussi, du coup, on a eu la chance avec cette petite tournée qu'on avait fait l'année dernière, on avait fait 4 concerts et j'avais aussi organisé quelque chose il y a 2 ans. En fait, ça nous a permis de déjà avoir quelques liens avec quelques acteurs locaux qui nous connaissaient, qui nous avaient déjà entendus en concert. Et donc, c'est vrai qu'ils nous faisaient déjà confiance. Et ça, c'est vrai que moi, ça a été un appui vraiment assez important cette année pour pouvoir lancer cette première édition de manière viable. Et notre but, c'est vraiment de pouvoir rémunérer les artistes, qu'ils soient tous déclarés sur les 13 concerts. Et voilà, parce que la culture va pas forcément très bien en ce moment, mais c'est pour ça que c'est aussi un projet un peu fou de lancer un festival avec 13 concerts et que tout ça soit viable économiquement.
Alors, on n'a pas l'habitude d'avoir des jeunes de 22 ans qui se mobilisent comme ça. Vous êtes de façon une passionnée de musique déjà à la base. Hein.
Tout à fait, oui.
Ouais.
Depuis que j'ai 6 ans, enfin même 4, et le hautbois depuis que j'ai 6. Et oui, c'est vraiment l'art, la culture en fait. Au-delà de même la musique, c'est la culture.
C'est la culture qui vous tient à cœur.
Vraiment, oui.
Est-ce que dans ce programme que vous avez établi, on parlera bien sûr des lieux, est-ce que c'est difficile d'avoir eu les autorisations, enfin, on va rentrer un petit peu dans les coulisses, mais est-ce que ce programme, eh bien, il représente un peu notre pays ?
Eh bien oui, par exemple, c'est assez drôle, c'est pour ça qu'on a mis à l'honneur une semaine au niveau du chœur, donc le chœur des Gaves. Donc moi je fais de la chorale depuis que j'ai 6 ans. Mais en fait, le cœur et la voix, c'est quelque chose qui parle énormément aux gens des vallées. Et c'est même quelque chose qui est vraiment inscrit dans le patrimoine culturel des vallées. Et donc pour nous, c'était très important de mettre ça. Pour moi aussi, très important de mettre ça à l'honneur. C'est pour ça que l'année dernière, j'avais fait chanter mon groupe entre les pièces où on jouait avec les instruments, on chantait des pièces. Et cet été, on dédie toute une semaine, donc la deuxième semaine du festival sera dédiée à la chorale et on va reprendre des chants pyrénéens.
D'accord, ok. Alors, on va écrire un peu ce programme. Il débute le 20 juillet, se terminera le 15 août. Donc, plusieurs rendez-vous. Hein. Si on écrit un peu votre programme, donc on a dit que ça débutait le 20 juillet, c'est ça,
oui.
Et alors, le 20 juillet, je ne le vois pas dans le programme.
Parce qu'en fait, le principe du fait, c'est que chaque semaine, donc le but, c'est aussi que les artistes ils soient vraiment... Ils viennent pas pour faire un concert, ils viennent pour vivre au rythme des vallées et rencontrer vraiment le territoire et les acteurs sur place. Donc toutes les semaines, nos artistes, ils arrivent en début de semaine, ils vivent dans la vallée pendant une semaine, donc ils sont vraiment en résidence sur place, et ensuite ils font la tournée à la fin de la semaine dans les différentes vallées, dans les différents lieux, pour que tout le monde puisse en profiter. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait aussi à cœur, pour qu'il y ait vraiment un échange avec nos artistes et les personnes sur place. Donc c'est pour ça que la première semaine, on commence à répéter le 20 juillet.
Oui.
Donc nous, on va être en résidence à la Maison Koumetou. Et donc, on fait les premiers concerts. Ce sera le 23 juillet à l'abbatiale de Saint-Savin avec le duo Toy. Et d'ailleurs, ce duo, il est assez particulier parce qu'il est composé de moi-même et de Clara Robinet-Vergès, qui est une amie à moi que j'ai rencontrée quand j'étais en prépa à Boulogne-Billancourt à Paris. Et Clara est également originaire du pays Toy. Elle a sa maison de famille à Luz-Saint-Sauveur. Donc c'est pour ça que notre rencontre, elle a été assez particulière. Et on a découvert il n'y a pas longtemps que nos grands-parents travaillaient ensemble en 1970. On a même les photos. Donc voilà, beaucoup d'émotions encore une fois, avec toute cette... Enfin, beaucoup d'émotions et d'ambitions aussi musicales, mais c'est fait avec beaucoup d'envie en tout cas.
Et donc le 23 juillet prochain, donc à l'abbatiale de Saint-Savin, c'est à 20h30. Hein.
Tout à fait.
Alors on va voyager un petit peu, puisque le lendemain, le 24 juillet, on part pour l'église des Templiers à Luz, à toujours à 20h30.
Oui. Tout à fait. Donc nous aussi, l'intérêt, c'était de mettre à l'honneur vraiment ce patrimoine magnifique qu'on a dans les vallées, donc avec des lieux qui sont quand même au niveau architectural et acoustiquement aussi, on ne se rend pas compte, mais pour des musiciens, pouvoir chanter dans l'abbatiale de Saint-Savin, pouvoir jouer dans l'église des Templiers, jouer dans la chapelle de Poëlin aussi, par exemple, où on va aller avec le quintet, où on avait déjà joué l'année dernière, qui a une acoustique, mais incroyable. Ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose aussi de touchant pour nous, et aussi de très considérant, parce que ça nous permet de jouer dans des lieux qui nous parlent.
D'accord.
Et donc, c'est pour ça que le troisième concert du Diotoy, ça va être à l'église d'Agos. Donc ça, c'est aussi un concert un peu hommage pour mon grand-père, qui est décédé il y a 2 ans et qui du coup est enterré
à Gosse. D'accord. Voilà. Le duo Toy, donc, avec votre collègue, le 23 juillet, donc à l'abbatiale de Saint-Savin à 20h30, le 24 juillet à l'église des Templiers à Luz, toujours à 20h30, et le 25 juillet, direction l'église d'Agos Vidalos, donc toujours à 20h30. Notre proposition que vous faites, c'est voix et chœur, cette fois-ci à partir du 30 juillet.
Oui. Donc là, on va retrouver 3 concerts. Donc ce qui se passe sur cette semaine, c'est que j'ai monté un ensemble vocal. Donc on a une dizaine de chanteurs. Donc en fait, l'intérêt, c'est de... On reste toujours dans cet univers de musique de chambre, petit ensemble de musiciens. Mais on part quand même sur une formation un petit peu plus étoffée, qui nous permet d'avoir plus de matière vocale pour travailler. Et donc là, le programme, il va vraiment tourner autour de... Donc, on reprend des chants pyrénéens, il y a aussi des chants nordiques, il y a quelques musiques de films. C'est vraiment un voyage un peu éclectique, mais qui, je pense, va énormément plaire.
Donc, cette proposition, vous la faites donc le 30 juillet à l'église de Serres. Le 31 juillet à la Villa Suzanne, Argelès-Gazost, et le 1er août à l'église des Templiers, donc à Luz, vous retournez à Luz. Et c'est à 20h30 toutes les propositions. Ça dure combien à peu près un concert ?
Un concert, ça va durer au maximum 1h30.
D'accord.
1h35.
D'accord, entre le duo Toy et les voix et chœurs.
Voilà.
On continue. Pardon, oui.
Pardon. Parce qu'on fait des concerts du coup en petit ensemble, mais on n'a pas d'entracte. Et vu que c'est quand même les concerts de musique de chambre, c'est énormément d'énergie, vu qu'on n'est que 2 ou 5 sur scène, ou une dizaine, et même à 10, l'énergie qu'on donne est assez particulière. On n'a pas de chef, hein, on s'autodirige entre nous. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire des concerts qui sont... Il n'y a pas d'entracte, Mais par contre, il y a tout un parcours historique qui va être aussi fait. Donc, c'est pas juste on joue de la musique. Il y a aussi une présentation, une mise en contexte de ce qu'on va vous chanter et vous jouer pendant les concerts.
Très bien. Alors, c'est vraiment pour nous, hein, les habitants, nous qui habitons pas très loin de ce joli pays des Gaves et du pays Toy. Et puis, c'est bien sûr pour tous les touristes qui sont dans la région. Hein.
Tout à fait.
On va prendre de la hauteur, là, puisque l'autre proposition que vous faites, c'est la Quinquette Gardana. Et là, on monte dans un endroit majestueux, puisque le 6 août, ce sera l'hôtel du Cirque de Gavarnie à 15h.
Tout à fait. On a eu la chance, du coup, d'être en contact avec Madame Vergès, et qui nous a ouvert.
Qui est Madame Vergès?
qui est la directrice de l'hôtel du Cirque.
D'accord.
Et qui, du coup, nous ouvre la terrasse pour qu'on puisse faire un concert, du coup, événement sur la terrasse. Et là, encore une fois, on a eu de la chance parce que l'année dernière, quand j'ai amené mon groupe faire Gavarnie, c'est quand même notre spot du coin. Donc, évidemment, j'avais amené mon groupe faire la balade jusqu'à la cascade. Et en repassant, on s'était dit, oh, ça pourrait bien de faire un petit coup de pub. Et donc, j'avais été voir Madame Vergès pour lui demander si c'était possible qu'on chante 5 minutes sur sa terrasse. Donc, ça, c'était l'été dernier. Et ça avait plutôt bien marché. Et vous voyez, elle se souvenait de ça. Donc, quand je vous disais qu'en fait, les petites choses peuvent vraiment amener à de belles collaborations derrière, c'est vraiment ça qu'on a été heureux de voir, c'est qu'il y avait des gens qui se souvenaient de nous et qui nous faisaient confiance. Et ça, c'est vraiment très touchant pour nous. Et donc, ce concert, c'est en plus, c'est un peu le concert événement. C'est le seul concert entièrement gratuit de tout le festival.
Avec une participation libre, bien sûr, pour les gens qui souhaiteraient vous soutenir.
Exactement.
Hein, ouais.
Tout à fait.
Et ça sera à 15h.
C'est ça, à 15h dans le Cirque.
Alors, le 7 août, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, dans une très belle chapelle, la chapelle de Poella.
Qui est une chapelle un peu cachée en plus, donc c'est vraiment une pépite à découvrir, je pense. Et en plus, au niveau de l'acoustique, encore une fois, pour y avoir joué l'année dernière avec la même formation, le Quintet Gardana, c'était vraiment incroyable.
Vous allez faire crapahuter un peu les gens parce que la chapelle de Poyenlin, ben il faut y aller, et puis jusqu'à aussi l'hôtel du Cirque aussi, il faut un petit peu marcher.
Exactement, mais je me dis c'est le charme.
C'est le charme.
Voilà. Puis aller voir un concert dans l'hôtel du Cirque, je me dis quand même, le lieu est tellement majestueux, la musique qu'on va jouer est incroyable parce que je suis pas encore venue dessus, mais le programme du quintet, on joue une pièce de Samuel Barber qui est le Summer Music, qui est mais bouleversante. Ensuite on a des chants marins un peu plus drôles et un quintet classique, mais cette pièce de Samuel Barber dans le Cirque de Gavarnie, j'ai hâte de voir les émotions que ça va créer.
Donc on rappelle la date pour Gavarnie, c'est le 6 août prochain à 15h, donc concert donc en plein air à l'hôtel du Cirque à Gavarnie. Donc on parlait de ce Quinquet Gardana, donc on était à Poëlin, donc le 7 août, le 8 le lendemain vous êtes le Clos de Luce à 20h30. Okay. C'est quoi le Clos de Luce?
Le Clos de Luce, c'est un gîte, en fait, et ils ont une cour qui est vraiment magnifique. Et donc, les Santolaria nous ont ouvert leurs portes, encore une fois, on les a rencontrés. Et nous font... En fait, voilà, ce festival, tout s'est créé avec des rencontres, petit à petit, des gens qui nous font confiance aussi, parce que c'est vrai que moi, j'arrive avec mes gros sabots, j'ai 22 ans, il y a des fois, c'est un peu, on peut se dire, mais c'est qui celle-là? Mais en fait, le but, c'est vraiment de créer quelque chose de fiable. Et donc là, le Clos de Luce, ils ont une cour qui est vraiment magnifique. Donc une cour, c'est une maison traditionnelle dans le centre de Luce, pas très loin des Templiers. Et donc en fait, on va faire un concert un petit peu plus intimiste, du coup, en extérieur aussi, dans cette cour, le 8 août.
Donc tout est à 20h30, sauf le Cirque de Gavarnie à 15h, et une autre proposition à 16h, cette fois-ci, à la Villa Suzanne, à Argelès-Gazost.
Tout à fait, donc la Villa Suzanne qui est aussi un lieu magnifique, qu'on a eu la chance de découvrir avec le quintet l'année dernière. Et donc, ce qui est vraiment génial dans cette Villa Suzanne, c'est qu'il y a quand même un salon d'entrée. Enfin, la pièce d'entrée est vraiment un salon qui est parfait pour la musique de chambre. En fait, la musique de chambre, c'est vraiment une musique qui a été composée pour ce type d'ambiance. Hein, voilà, des salons de musique. C'est pas de la musique faite pour jouer dans des salles de concert immenses. C'est vraiment de la musique intimiste. Donc, c'est pour ça que la Villa Suzanne, c'est un lieu qui coïncide parfaitement avec ça. On a vraiment hâte d'y retourner. Et en plus, on a tellement été bien accueillis par la mairie d'Argelès et les élus à la culture que vraiment, c'est un plaisir de pouvoir y retourner.
Et puis le 11 août, vous serez à l'église d'Esquiez qui terminera donc ce petit parcours pour le Quinquet Gardana. Et vous clôturez ce festival avec un octuor avant, c'est ça?
Et c'est même un dixtuor. J'étais partie sur un octuor et en fait l'ambition a pris le dessus et donc on est maintenant sur un dixtuor. J'ai réussi à trouver d'autres musiciens en plus Et donc là, c'est un pari un peu fou, hein, parce que moi, j'ai déjà la chance d'avoir mon quintet avant, donc hautbois, flûte, clarinette, cor, basson, et voilà. Mais là, il nous faudrait le double. Et c'est vrai que ces instrumentistes-là, on les a pas forcément sous la main. Et donc voilà, toute la programmation du festival, je l'ai réfléchi aussi pour qu'on ait des artistes qui tournent, qu'on n'ait pas besoin de faire venir des gens et les faire repartir. Enfin, le but, c'est que ce soit aussi économiquement vraiment viable. Et donc là, pour cette dernière session, eh ben, j'ai pu avoir la chance de faire venir des anciens contacts à moi du coin, donc des amis de Tarbes, pour la chorale, et aussi des gens de Pau qui reviennent. Et donc ça, c'est génial parce que moi qui ai grandi à Pau, qui était au conservatoire à Pau toute ma jeunesse, et aussi un peu à Tarbes, ça me fait du bien de pouvoir reprendre contact aussi avec des gens qui ont grandi ici, étudié ici aussi. Donc ça, c'est vraiment super.
Deux concerts.
Il y aura deux quintettes avant, donc deux hautbois, deux flûtes, deux clarinettes, deux cor et deux bassons. Donc ça va envoyer du lourd et on joue des pièces incroyables. Non, c'est vrai que la masse sonore est assez présente et puis c'est des instruments avant, quoi. Donc au niveau de la vibration, on s'en prend plein la tête. Et donc on va jouer la petite symphonie de Gounod, des extraits de la grande partita de Mozart et également la suite persane de Caplet qui est incroyable.
Et donc ça c'est le 14 août à la salle de la Terrasse à Argelès-Gazost et le lendemain qui clôturera donc votre festival le 15 août à l'église de nouveau des Templiers à Luz et toutes ces propositions sont à 20h30. On va parler des tarifs avec vous Inès.
Oui, donc le tarif principal des concerts sera à 15€. Ensuite nous avons un tarif réduit qui est à 10€. C'est gratuit pour les moins de 12 ans. Et aussi, nous avons lancé une offre pour tous les étudiants qui sont en école de musique, association ou des choses comme ça, qui donnent des cours, associations culturelles ou des choses comme ça. S'ils adhèrent à notre association pour 10€, ils ont accès à l'intégralité des concerts.
D'accord.
Et donc ça, c'est une action qui nous tenait vraiment à cœur parce que moi, quand j'étais par exemple au conservatoire ici ou des choses comme ça, j'aurais adoré pouvoir aller dans un festival où il y a des gens qui sont pas très loin de moi en âge, ça donne des perspectives. Et puis notre but, si on peut créer des vocations aussi pour plus tard, ce serait avec plaisir.
Inès Sira Gédine, vous avez 22 ans, vous êtes l'auteur de ce festival, vous avez créé une association qui s'appelle Musique en Vallée des Gaves, bien sûr pour avoir quelque chose de réglementaire. Si on veut plus de renseignements, où c'est qu'on peut trouver, pour les gens qui nous écouteraient à la radio, peut-être en train de conduire, qui a dit mais je peux pas noter, mais il y a des choses qui m'intéressent, où c'est qu'on peut retrouver toutes ces informations?
Alors, ils peuvent nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, donc Festival Vallée des Gaves. Et sur Facebook et Instagram, ils trouveront le lien qui renvoie directement vers notre site internet où là, il y a tous les détails, donc toutes les billetteries, tous les liens qui envoient aussi pour l'adhésion à l'association, tous les renseignements sur l'association. Et s'ils veulent réserver en ligne, ce sera possible.
Ça sera possible également et on peut venir le jour même en acheter des billets.
Tout à fait. Et on est aussi dans l'agenda des Vallées de Gavarnie. Donc, dans l'agenda des offices, ils pourront aussi nous trouver s'ils le souhaitent.
Est-ce que ça a été compliqué d'avoir accès donc aux églises? Vous avez parlé de la chapelle de Poëlin, vous avez l'église des Templiers. Est-ce que, par exemple, à Saint-Savin, à la Bastiale, est-ce que ça a été compliqué?
Honnêtement, ça dépend. En fait, chaque cas est assez particulier. Ça dépend d'une part de déjà l'animation culturelle qui se passe déjà dans ces lieux.
Oui.
Parce qu'il y a certains endroits où il y a déjà plus d'animation culturelle et du coup ils préfèrent équilibrer la programmation et donc ça c'est des choix stratégiques qui sont faits à certains endroits. Et après il y a eu, ce qui nous a vraiment aidé, c'est aussi vraiment les lieux où on avait déjà été, en fait qui connaissent déjà la qualité de ce qu'on fournit. Et parce oui. que c'est vrai qu'on est jeune, mais on est quasiment professionnel, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille notre instrument. C'est notre activité principale, quoi. Donc c'est vrai que quand on nous voit arriver, on s'attend pas forcément, mais le retour qu'on avait eu l'année dernière, c'était assez drôle. À la fin des concerts, les gens venaient nous voir en nous disant mais en fait vous jouez super bien. Oui, c'est notre métier en fait. Mais c'est vrai que quand on nous voit, on se dit pas on est tout mignon, on est jeune, mais oui. Et donc ça nous a vraiment énormément aidé pour cette année, par exemple à Poëlin où on avait déjà été, Saint-Savin aussi où on avait déjà été, l'abbé Benjamin Martin qui nous connaissait déjà et qui vraiment nous soutient énormément aussi. Les paroisses du Pays-Toi nous soutiennent énormément pour ce projet. Ils nous ont ouvert vraiment quasiment toute leur église dans le Pays-Toi, donc ça c'est quelque chose de vraiment incroyable. Aussi, comme je vous disais, la mairie d'Argelès qui vraiment nous soutient énormément, qui nous ouvre la Villa Suzanne quand on en a besoin, la salle de la Terrasse. Donc voilà, tout ça mis à bout, toutes ces rencontres en fait, c'est aussi ça, c'est trouver les bons partenaires qui vont nous faire confiance et qui aussi sont sont passionnés et qui ont envie qu'il y ait de l'activité culturelle aussi dans leur lieu.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment, on soutient aussi bien sûr les partenaires. Vous l'avez dit, la ville d'Argelès, la commune de Gavarnie, la communauté commune des Pyrénées-Vallées des Gaves. Voilà, tout le département, tous les gens qui vous ont aidé. Vous l'avez dit, hein, sur les réseaux sociaux, on vous trouve. Il suffit simplement de parler de votre nom, qui s'appelle Musique en Vallée des Gaves. Et le programme donc Musique de chambre en Vallée des Gaves pour cet été 2026. On a un petit peu le programme avec vous. Vous avez 22 ans et honnêtement, quand on vous entend parler, vous donnez un dynamisme, vous donnez une envie et ça fait du bien à entendre. Vous vendez bien votre produit, vous nous faites rêver. C'est extraordinaire et j'espère que vous aurez beaucoup de succès.
Ben, merci beaucoup, ça me fait très plaisir en tout cas d'avoir pu avoir ce moment sur Radio Présence. Merci énormément.
Et puis, on essaiera de relier assez régulièrement donc toutes vos propositions. Merci beaucoup Inès. Sirajedine, donc 22 ans. Et oui, vous l'avez dit, c'est pas parce que vous avez 22 ans que vous avez débuté il y a un ou deux ans votre instrument. Non, vous êtes là, vous m'avez dit depuis 6 ans, vous connaissez bien votre instrument, vous avez fait les conservatoires, vous avez fait les grandes écoles. Et donc effectivement, le concert que vous donnez est un concert de très grande qualité.
Merci beaucoup.
Bon courage à vous et puis bon festival.
À très vite.
Au revoir.
Voilà, merci à Philippe Subarcas donc qui a réalisé cet entretien festival de musique de chambre donc en Vallée des Gaves, c'est dans les départements des Hautes-Pyrénées. Les dates, c'est du 23 juillet au 15 août. On reste dans les Hautes-Pyrénées, direction Lourdes et le sanctuaire de Lourdes avec Jean-François Guiraud qui est au micro de Mathias Terrier dans Deux Passages à Lourdes.
Présence. Deux Passages à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission de témoignages. Nous recevons aujourd'hui un pèlerin de 20 ans à Lourdes. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Alors un pèlerin, j'ose dire, singulier, vous avez été pèlerin, directeur de pèlerinage. Vous êtes un fidèle dorénavant de Lourdes, vous y venez très régulièrement. Votre parcours aussi nous intéresse non seulement par l'expérience que vous avez vécue avec ce lieu, ce sanctuaire qu'est Lourdes, mais également l'enseignant que vous avez été. Professeur de français durant 40 ans.
Français-latin.
Français-latin, 40 ans durant. Vous avez été marié 52 ans, vous êtes veuf. Vous avez, avec votre épouse Marie-Madeleine, adopté 3 enfants. Nous parlerons de toutes ces expériences, si vous le voulez bien.
Volontiers.
Jean-François Guiraud. Pour commencer, j'aimerais peut-être que vous vous replongiez dans la première fois que vous venez à Lourdes. Parce que cette histoire est étonnante. Vous devenez directeur de pèlerinage à la demande d'un évêque. Et quand on fait un pèlerinage au service d'un diocèse, généralement, il y a un pèlerinage à Lourdes. Pas que, mais il y a un pèlerinage à Lourdes. Vous n'êtes jamais venu à Lourdes.
Avant, non.
Avant. Et vous lui dites, je n'y connais rien.
Oui.
Et il vous dit, c'est pour ça que je vous choisis.
Voilà. Il m'a fait confiance, oui.
Il s'agit en plus d'une personnalité qui est connue dans l'Église de France.
Bien sûr.
Monseigneur Lacrampe. Mmh. Qui est natif du pays de Lourdes, on va dire. Et puis ensuite, qui a été évêque en Corse, évêque à Besançon, qui est votre terre d'enseignement, puisque vous avez été enseignant par là-bas, durant 40 années, nous l'avons dit. Votre première impression lorsque vous arrivez à Lourdes?
La toute première fois que je suis arrivé à Lourdes, c'était avec le prêtre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était l'aumônier du service des pèlerinages diocésains, qui lui connaissait Lourdes, et qui a eu l'amabilité de m'amener à Lourdes pour me faire connaître le lieu, le pèlerinage, et me préparer en quelque sorte directement à ce qu'allait être ma fonction future de directeur de pèlerinage diocésain.
Mais vous arrivez quand même avec quelques préjugés, avec quelques images d'Épinal que vous avez captées ici ou là, à la télévision.
C'est ça.
Le commerce.
Oui, la foule des pèlerins.
La foule des pèlerins.
Les processions, etc., etc. Oui, c'était quelques flashs qui m'avait amené à avoir une certaine image de Lourdes, dont j'ai découvert progressivement qu'elles étaient très loin de recouvrir la réalité de ce qui se passe en vérité.
Oui. Et avec du recul un petit peu aujourd'hui, vous vous dites à ce moment-là, qu'est-ce qui vous touche? On parle parfois de la grâce de ce lieu. Bon, l'étonnement aussi qu'on peut avoir.
L'étonnement, c'est évident, oui. Et puis, comment dirais-je, Oui, je crois qu'on peut dire la foi des gens qui viennent, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur religion. J'ai vu des gens qui venaient d'Inde. Quand j'étais directeur de pèlerinage, j'ai amené des musulmans. Ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est la multiplicité des origines des gens qui étaient là. Ce qui suppose, je l'ai vérifié aussi après en tant que directeur de pèlerinage, la multiplicité des démarches de gens venant à Lourdes. Certains venaient dans une démarche de foi, d'autres venaient dans une toute autre démarche. Ils faisaient un break, une parenthèse dans leur vie, et ils sortaient des rails. Et c'est ça que j'ai énormément apprécié ultérieurement, si vous voulez. J'ai conçu le pèlerinage comme un espace de liberté, dans la mesure où on sortait de sa paroisse, on n'était plus sous le regard des autres, on n'était plus prisonnier d'une image. Et on pouvait donc être autrement que chez soi. Et ça m'a frappé, et je l'ai vérifié à de multiples reprises ultérieurement.
Donc vous dites, au fond, moi comme directeur de pèlerinage, la chance que me donne Lourdes, c'est ça. C'est cette église à ciel ouvert.
Absolument.
Avec cet accueil inconditionnel.
Oui. Oui, tout à fait.
Qui est éminemment évangélique, au fond.
Bah oui. Oui, tout à fait. C'est ça.
Où vous en êtes à ce moment-là au plan de votre foi ?
Je recommençais à m'engager dans une démarche de foi, après une longue période au cours de laquelle j'avais pris mes distances, parce que je comprenais plus trop ce que je faisais dans une église, ce qu'on y faisait, pourquoi j'étais là, avec quel objectif, etc., etc. Et je me suis éloigné pendant un temps, et les rencontres que j'ai pu faire, ultérieurement, m'ont ramené à nouveau sur le chemin d'une démarche que je qualifie une démarche de foi, quoi. Du moins, un essai de démarche de foi.
Vous diriez que vous étiez dans une foi sociologique, héritage.
Absolument. Absolument. Je suis issu d'une famille où, le fait d'être chrétien, d'aller à la messe le dimanche, de faire ses Pâques, Noël, etc., allait de soi. Ça allait de soi. Mais, j'ai mis un certain temps avant de me poser la question de savoir ce que je faisais là, quoi. Parce que, bon, ça ne me nourrissait pas, ça ne répondait pas aux questions que je pouvais me poser. C'est la raison pour laquelle j'ai pas claqué la porte, mais je suis parti avant de revenir, tout en étant, même quand j'avais quitté, tout en étant toujours extrêmement intéressé par des préoccupations d'ordre spirituel. Oui, c'est des questions qui m'ont toujours intéressé. Disons que j'avais un terrain favorable malgré tout, quoi, sans en avoir conscience.
Et vous diriez que Lourdes a contribué à vous à rediriger un peu votre chemin ou à fléchir un peu votre cheminement sur ce plan ?
Les gens que... Je ne sais pas s'il faut dire Lourdes ou s'il faut dire les gens que j'ai eu l'occasion de croiser à Lourdes.
Ah, voilà. Parce que le lieu et sa beauté, ce sont les pèlerins.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous qui avez enseigné un peu l'esthétique, dans le monde de l'esthétique, je crois.
Oui, le français, le latin et l'esthétique.
On
ne
peut pas dire que Lourdes soit beau.
La basilique souterraine est belle.
Oui, mais la beauté, c'est une basilique souterraine habitée par les pèlerins.
Voilà, oui, bien sûr.
Et donc, c'est les personnes que vous croisez qui vous réinterpellent sans le vouloir, sans s'en rendre compte.
Oui, sans le vouloir, oui. Sans doute sans le vouloir. J'ai jamais eu le sentiment que ces gens-là avaient comme projet de me remettre dans une démarche de foi, pas du tout.
Et pourtant, ils vous prenaient par la main indirectement.
On peut le dire, oui.
Les voies de Dieu sont assez impénétrables de ce point.
C'est ce qui se dit habituellement, et je crois que c'est vrai, oui. Je crois que c'est vrai.
Et vous sauriez dire à partir de quel moment vous rebasculez d'une foi dite sociologique, enfin, ou dans, en tout cas d'un héritage,
oui,
vers quelque chose qui est beaucoup plus personnel, vécu, qui vous fait vivre comme un feu.
Oui, je ne pourrais pas vous donner de date précise. Ça a été, comment dirais-je,
un chemin,
un cheminement lent, progressif, sans étapes fulgurantes, mais qui ont fait qu'à terme... Je me suis retrouvé renouer des contacts avec l'Église, avec les chrétiens, et me sentir à l'aise, encore que parfois j'ai rué dans les brancards, me sentir à l'aise au sein de cette communauté de chrétiens, quoi.
C'est parce que vous aviez changé votre rapport personnel à Dieu, à Jésus, à Marie ?
Je pense, oui. Oui, notamment à Marie, effectivement, parce que, bon... J'avais hérité, comme beaucoup de gens, d'une image très saint-sulpicienne de Marie. Elle est gentille, mignonne, cette petite fille, etc., etc. Cette jeune fille, plutôt. Bon, bien peignée, bien lisse, bien ceci, bien cela. Mais qui correspond pas à la réalité de la force de cette jeune fille. Je suis encore, j'ai lu un certain nombre de choses concernant Marie, parce que quand on a des pèlerins, il faut quand même pouvoir leur parler, hein, et puis pas leur dire n'importe quoi. Et j'ai lu beaucoup de ce qui avait été écrit à propos de Marie, et puis de Bernadette aussi, et j'ai été extrêmement étonné par l'assurance, oui, de Bernadette notamment.
Et de la Vierge Marie.
Et cette ouverture, le oui inconditionnel, ça m'a frappé.
L'acte de confiance.
Oui.
Et donc, vous allez pendant 10 ans être le directeur des pèlerinages du diocèse de Besançon, mais qui à l'époque propose un pèlerinage pour le diocèse de Besançon et de Belfort.
Et de Belfort, oui. Le pèlerinage était commun aux deux diocèses.
Et depuis lors, vous n'avez cessé, même si vous n'êtes plus le directeur de pèlerinage, de continuer à venir à Lourdes.
Oui, absolument. J'ai continué à venir à Lourdes régulièrement, d'abord au titre de ma direction, de ma responsabilité,
oui.
Et puis après, au titre de mon engagement au CCFD, puisque je faisais partie d'une équipe au CCFD, d'une équipe composée de gens venant d'horizons géographiques divers, mais réunis dans une même équipe, et nous nous étions donné comme objectif d'essayer de sensibiliser les publics que l'on rencontrait, qui n'étaient pas forcément des publics chrétiens, hein, d'ailleurs, ils nous faisaient une demande, et on essayait de les sensibiliser à l'idée de la solidarité internationale. Voilà.
Le CCFD, ça veut dire Comité catholique contre la faim et pour le développement, et CCFD Terre solidaire.
Terre solidaire, voilà.
Oui. C'est une grosse organisation non gouvernementale qui a beaucoup d'œuvres de générosité à travers le monde.
Oui. C'est un collectif, il y a 29 ou 31 associations différentes, je ne me rappelle plus exactement.
Ouais. Oui. Et donc c'est à Lourdes que vous avez rencontré le CCFD aussi.
Absolument, c'est à Lourdes que j'ai rencontré le CCFD. Oui.
J'avais entendu témoigner, quoi.
Voilà, ensuite. J'avais entendu parler du CCFD, mais très peu finalement. Ça ne faisait pas partie de mon champ habituel de préoccupation. Mais à partir du moment où j'ai rencontré des gens du CCFD sur Lourdes, et notamment la directrice du CCFD de l'espace rencontre...
Lisette.
Du CCFD, Lisette.
Voilà. On salue.
On la salue, oui chaleureusement.
Oui.
Et puis quelques autres personnes également qui gravitaient autour de Lisette, Dame Deslois, que vous connaissez ici aussi, bien sûr. Et si vous voulez, ça m'a remis sur les rails, quoi. Enfin, sur les rails. Pas sur les rails, puisque je dis souvent que le pèlerinage est un espace de liberté. On sort du cadre de vie habituel. On est moins prisonnier du regard des autres. Et on peut être libre. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vérifier, lors des pèlerinages, cette possibilité de liberté. Je me souviens notamment d'une messe, je ne sais plus où exactement, c'était en Israël, ou en Palestine, je ne sais jamais comment il faut dire d'ailleurs, d'une messe à l'issue de laquelle... Le célébrant, le père sœur, invite tous les participants à se réunir avec lui autour de l'autel. Et dans l'assistance, ce qu'ils font, et dans l'assistance, il restait deux personnes, un couple, que je connaissais, puisque c'était des gens de mes amis ou de mes connaissances, de bonnes connaissances. Bon, ils bougeaient pas, ils restaient dans à leur place. Alors je suis allé les voir. Donc, pourquoi vous ne venez pas? Oh, on est divorcés, remariés. Il dit oui. Et alors? Et ça, c'est une possibilité que le pèlerinage offre. Je me rappelle une autre fois également un monsieur, l'organiste de ma paroisse, qui disait n'avoir jamais communié depuis plus de 20 ans. Et puis, on était dans le sud d'Israël. Et à un moment donné, juste avant la messe, il me dit, est-ce que tu crois que je peux communier? Puis il m'explique que ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il ne l'a pas fait. Je lui dis, j'en sais rien, on va demander au prêtre. Alors, on va voir le prêtre, on lui explique, il s'explique, et puis il dit son désir. Alors le prêtre lui dit, vous venez, vous communiez, et puis après, on se rencontre et on parle. Bon. Dans ma paroisse, il ne l'avait pas fait pendant 20 ans. Là, ça a été possible. Et après, au retour, il a continué à fréquenter l'église, bien sûr, et à communier. Bon, c'est des possibilités qui sont offertes par un autre cadre, un autre lieu, d'autres gens, une manière d'être différente possible.
Jean-François, si vous le voulez bien, nous restons ensemble. Nous allons marquer une courte pause dans cette émission et puis ensuite nous continuons à écouter votre témoignage, en particulier sur votre expérience de croyant, mais aussi d'enseignant, de père de famille. Nous parlerons de tout ça juste après cette pause. À tout de suite.
Présence à Toulouse 97.9.
Les podcasts de Radio Présence. Podcasts de Radio Présence. Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Présence. De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Notre invité aujourd'hui est Jean-François Guiraud. Jean-François, merci d'apporter votre témoignage avec simplicité, profondeur. Vous êtes actuellement habitant près de Besançon, dans un village de quelques 2000 âmes.
Oui, comme vous dites, oui.
Vous y avez enseigné à Besançon dans un établissement scolaire pendant 40 ans.
Oui.
Le français et le latin.
Oui.
Vous avez été directeur de pèlerinage pour le diocèse de Besançon. Vous nous parliez de votre découverte de Lourdes dans la première partie de cette émission. Et vous disiez combien le pèlerinage en général est un immense espace de liberté et donc d'évangélisation.
Voilà.
Parce qu'une annonce de l'évangile sur un mode où il y a peut-être moins de regards, moins de contraintes, moins d'exigences, moins de rites, parfois. Et ça, vous l'avez très bien vécu, vous, comme directeur de pèlerinage.
Oui, je l'ai éprouvé assez rapidement, et puis je me suis senti à l'aise à l'intérieur de cette possibilité qui m'était offerte. Et je crois que ça, comment dirais-je, cet espace de liberté est, me semble-t-il, utile. Utile. Il permet à des gens d'être autres que ce qu'ils sont habituellement.
En 2015, vous recevez avec votre épouse un grand coup de massue lorsqu'on annonce à votre épouse qu'elle a un cancer incurable.
Oui.
Vous avez été marié pendant 52 ans.
Oui, 52 ans, oui.
Elle est prénommée Marie-Madeleine. Et vous parliez de Marie, de la Vierge Marie, vous parliez de la petite Bernadette. Voilà une personnalité, Marie-Madeleine, hors du commun. Comment la foi vous a accompagné aussi dans cette grande souffrance ?
Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, comment dirais-je, à partir du moment où l'oncologue qui a suivi ma femme pendant les 5 ans qu'a duré sa maladie, avant son décès, j'ai été tiraillé entre deux attitudes contradictoires. J'avais toujours en mémoire le diagnostic qu'avait posé l'oncologue en disant « Vous avez un cancer, un mauvais cancer, et je ne vous guérirai pas. » Bon, ça, c'était clair et c'était net. Et puis, il y avait autre chose, c'est-à-dire que malgré ce diagnostic, elle est rentrée dans un processus d'examen, de chimiothérapie, etc., etc., au terme desquels, ou au cours desquels, nous avions toujours l'espoir que ça puisse, sinon s'arranger, du moins, mais que ça puisse aller mieux. Bon, et cet espoir s'est progressivement amenuisé, me semble-t-il, mais j'ai toujours eu, oui, l'espoir que ça pourrait aller mieux. Qu'elle pouvait sinon guérir, mais au moins ne pas trop souffrir, ne pas être trop mal, et d'autant plus qu'elle avait supporté ça avec beaucoup de courage. Avec beaucoup de... Oui, presque jusqu'à la fin. Oui.
Vous avez vécu aussi cette séquence comme une injustice ?
Non, j'ai jamais pensé à ça. En termes d'injustice, c'était... Non, c'est de l'ordre des choses qui arrivent.
Vous parlez d'espoir et pas d'espérance.
Oui, nuance subtile. Oui. J'ai eu l'espoir. Alors, est-ce que c'était une espérance ? Je suis pas sûr à ce moment-là de l'avoir vécu dans ces termes-là. Plutôt d'espoir, oui.
Vous avez vécu toute cette séquence alors que vous étiez marié 52 années durant ces 5 dernières années où progressivement donc votre épouse a perdu sa santé.
Oui.
Vous êtes encore aujourd'hui admiratif.
Absolument. De la façon dont elle a vécu cette période-là, ça a été difficile, ça a été douloureux pour elle, c'est évident. Ça n'a pas été simple pour moi non plus. Ça n'est jamais simple pour personne, quoi. Mais ce dont je me rends compte, maintenant que vous me faites parler de ce sujet-là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai jamais eu véritablement le sentiment d'une injustice, plutôt plus d'une fatalité que d'une injustice. Et je me suis... Comment dirais-je ? Je suis rentré dans une attitude d'acceptation de ce qui arrivait. Voilà.
Aussi avec votre foi, telle que vous la viviez à ce moment-là ?
Sans doute, j'ai pas eu conscience sur le moment que c'était le résultat d'une démarche de foi. Rétrospectivement, je m'interroge, c'est possible. Mais, bon, je me suis installé dans une attitude, oui, d'acceptation, vous disais-je. Oui, bon, c'est comme ça. On va essayer de gérer ça du mieux, du moins mal possible. Je sais pas si on peut dire du mieux possible, mais du moins mal possible, quoi. Et sans désespoir.
Avec Marie-Madeleine, votre épouse, vous avez adopté trois enfants.
Trois enfants, oui. Deux d'origine coréenne et une française.
Qui ont aujourd'hui 51, 50 et 44.
Et 44, oui.
44 ans.
Oui. Oui, ça aussi, ça a été une expérience étonnante.
Vous dites ça presque avec humour, mais c'est... Oui. C'est aussi pour masquer que ça a été une expérience, d'abord un engagement fort, et sans doute qui a nécessité beaucoup d'engagement de la part de,
absolument, oui.
De votre épouse et de vous-même.
Hein, oui, voilà. oui, bien sûr. Oui, et puis,
avec des moments de doute, des moments de joie.
Oui, des moments où ça a été difficile aussi, c'est évident. Oui. Notamment avec la petite dernière qui nous est arrivée, elle avait 8 ans et demi. Elle avait été confiée à plusieurs reprises en vue d'adoption, puis ça n'a jamais marché. Elle a contribué, je crois, involontairement, elle a contribué à faire éclater trois couples qui ne l'ont pas supporté, elle, la gamine. Et elle était vraiment pas facile.
C'est Karine.
Karine, oui, c'est ça. Oui.
Et vous ?
On avait eu le sentiment que ce qu'on pouvait lui dire glissait sur elle comme l'eau sur les plumes du canard. Jusqu'au jour où on l'a fait pleurer. Je ne sais plus quelle circonstance, je ne me rappelle pas. Et puis, elle a pleuré, et puis on s'est dit, ah, là, il y a une fissure. Et on sait bien que c'est par les fissures que passe la lumière, hein, c'est bien connu. Les fêlures, oui. Et effectivement, ça a été lent, long, difficile. Je me rappelle un jour, notre fils a débarqué un dimanche matin, au petit déjeuner, ravi. Il dit, ah bon, t'as bien dormi ? Oui. T'as l'air bien gai. Ah oui, j'ai rêvé que Karine était morte.
Oh là là.
Bon, eh ben, dit, ben, c'est bien, il le dit, au lieu de prendre un couteau puis d'essayer de l'égorger.
Ouf, vous nous faites part là avec, comme même un peu de le regard distancié aujourd'hui, mais d'une séquence de votre vie où ça a dû être parfois compliqué.
Ça n'a pas été forcément facile, oui, effectivement. Oui.
Aujourd'hui, elle est soignante, Karine.
Oui, elle est soignante, oui, et épanouie, heureuse, mère de famille elle-même, et elle va bien.
Elle parle de cette période ?
Non, très peu.
Très peu.
Très, très peu.
Vos autres filles, vous avez une fille encore à l'aînée ?
Oui, la fille aînée, Anne-Laure.
Anne-Laure et puis Samuel.
Voilà, Anne-Laure qui travaille pour le SPIP, le service de probation et d'insertion pénitentiaire. Elle est fonctionnaire du ministère de la Justice. Alors, tantôt en prison, tantôt en dehors de la prison, puisqu'il y a deux équipes qui travaillent, l'une en milieu fermé, l'autre en milieu ouvert. Voilà.
Ça vous émeut de reparler de tout ça ?
Oui. Ah oui, quand même.
Oui.
Oui. Oui. Oui, parce que... Bon. Ils partent de loin. Ils sont arrivés à...
À de belles choses ?
D'assez belles choses, oui, somme toute, oui. Oui. Et ça, c'est une satisfaction personnelle. Et puis, oui, c'est une satisfaction. Pas tellement pour nous, mais pour eux. Pour eux.
Vous avez des petits-enfants ?
Oui, j'ai quatre petites filles, que des filles. Deux qui ont 22 ans, et puis deux qui ont 16 ans. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-François Guiraud, pour ce témoignage.
C'est moi qui vous remercie.
Qui nous a permis de découvrir votre parcours, votre chemin de foi, votre vie, vos choix. On vous souhaite bon vent.
Merci.
Et puis, puisque vous êtes un fidèle pèlerin de passage à Lourdes, on vous dit à bientôt.
Ben, je reviendrai bientôt, évidemment.
Au revoir.
Au revoir et merci.
Présence de passage à Lourdes.
proposé par Mathias Terrier.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter doucement.
Cet internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux États-Unis et 200 millions en France.
La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui chaque année nous honorent d'un nouvel ouvrage.
Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième enfant. Ça stresse un peu, car comment notre plus grand va le prendre ?
Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ces partages.
On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes.
Les chroniqueurs de Radio Présence à Aix-les-Thermes, 92.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
La guerre au Moyen-Orient, même si les pourparlers se poursuivent, ce sont surtout les armes qui parlent, les Américains.